À voix nue, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale par Jean Dève. Premier entretien avec Jacques Lassalle, metteur en scène.
Jacques Lassalle, comment abordez-vous Tchekhov aujourd'hui en sachant que Tchekhov alimente depuis le début une longue expérience du théâtre? Depuis Stanislavski, Georges et Sacha Pitoyev, Tania Balachova, Peter Brook, Antoine Vitesse, Jean Villard, Georges Lavaudan et vous-même. Comment est-ce que vous comprenez cet impact de Tchekhov chez les comédiens et aussi chez les metteurs en scène?
Une vaste question. Depuis très longtemps, depuis ma jeunesse, depuis ce jour, je crois, où j'ai découvert Tchekhov au théâtre de l'Atelier, dans une mise en scène de Barsac. C'était, je crois, là, je me souviens, Catherine Sellers qui jouait la mouette, Paul Bernard qui jouait Trigorine, Jacques Amérian qui jouait Treplev. Enfin, depuis ce jour-là, j'ai eu le sentiment, c'était Valentine Tessier aussi, je crois, qui jouait Arkadina. Depuis ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'être curieusement chez moi, dans un sentiment d'intimité absolue. Enfin, tout ce que le jeune, j'étais encore collégien d'ailleurs, mais ce que le collégien, l'étudiant, le jeune acteur allait obscurément chercher, sans le rencontrer rarement, je l'avais trouvé chez Tchekhov. Pour aller vite, une terrible cruauté, une terrible lucidité dans le regard sur le monde, et tout autant et simultanément un sentiment bouleversant de compassion. Et j'ai compris plus tard que c'était le regard du médecin, enfin, c'est-à-dire l'absence totale d'illusion, l'horreur d'un travestissement du réel, de la vérité, et en même temps, et si grave que soit le cas présenté, un sentiment de fraternité ultime avec ce qu'on appelle le patient. Et ceci dans une forme extrêmement simple, se méfiant de tout, et d'abord de la littérature, conquérant sur la permanente tentation du silence et du retrait et de l'écoute de l'autre, une écriture du laconique, de l'essentiel, voilà. Une écriture où tout se passe entre les mots. Et qu'est-ce que c'est que ce tout se passe? C'est un tourbillon de sensations, de perceptions, de velléités. Voilà, tout ça, très confusément, je l'ai éprouvé dès ma première relation avec le théâtre de Tchekhov, ma relation là, dans l'espace du théâtre. Alors j'ai compris beaucoup plus tard que j'avais assisté à une représentation qui participait d'une sorte de nostalgie slave dans la continuité de Pitoev. C'est-à-dire que le premier Tchekhov auquel on a eu accès, je crois, en France, très longtemps, ça a été un Tchekhov importé par des Russes émigrés qui, en Tchekhov, voyaient d'abord l'occasion de se souvenir de leur pays, dans une mémoire en quelque sorte enchantée, enfin. Et puis j'ai découvert progressivement, avec le temps, d'autres approches possibles de Tchekhov. Mais c'est tout de même ce Tchekhov-là dont tout est sorti. Et j'ai eu tellement peur de ce sentiment d'intimité, de ce sentiment fusionnel avec une œuvre, avec un univers, que comme il m'arrive souvent, je crois, à beaucoup, et comme il m'arrive souvent à moi, j'ai différé la rencontre. Elle m'importait trop. J'en avais peur. Tout ce qui, souvent, paraît un rendez-vous essentiel, un rendez-vous inévitable, je trouve le moyen de le différer, voilà. J'ai différé très longtemps la rencontre, ma rencontre personnelle avec l'œuvre de Tchekhov. Je m'en tirais par une boutade. Au fond, ce n'est pas la peine que je mette en scène Tchekhov, puisque je ne fais que ça, dans l'œuvre des autres. Donc, ce n'est même pas la peine que je...
Voilà. Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette expérience du théâtre de Tchekhov? Autrement dit, est-ce que vous prenez en compte un certain nombre de mises en scène, puisque vous montez en ce moment Platonov? Est-ce que vous analysez, par exemple, les leçons des Pitoïev ou de Vitez? Est-ce que vous avez recours aux indications de Tchekhov lui-même? Est-ce que vous faites une alchimie un peu secrète qui vous appartient?
Je crois. Ça finit toujours comme ça, par une espèce d'appropriation discrète, modeste, mais tout de même une appropriation. J'ai vu en effet beaucoup de représentations de Tchekhov en France et à l'étranger. Pour ne parler que de Platonov, le hasard a voulu que ces deux dernières années, ayant mis en scène à Saint-Pétersbourg le Dandin de Molière en russe, et ensuite ayant été invité à présider le jury d'un merveilleux festival à Varsovie, pour la deuxième année d'ailleurs, le festival des écoles. Et il se trouve que j'ai beaucoup insisté pour que le prix de ce festival aille à deux représentations d'écoles de Platonov, justement. Celle de l'école de Bratislava et celle de l'école de Budapest. Et que j'avais vu à Saint-Pétersbourg aussi une très étonnante, une très bouleversante mise en scène de Platonov par un metteur en scène assez connu en France, qui s'appelle Dodine, et qui avait fait là une œuvre d'une désespérance totale, qui ramassait en les fusionnant, enfin, le moment tsariste, le moment stalinien et le moment mafieux de la société russe, dans une vision extraordinairement douloureuse et en même temps fervente. Enfin, voilà, j'ai vu beaucoup de représentations, j'ai lu beaucoup Tchekhov et j'ai beaucoup rêvé à ce premier contact avec lui, puisque il est un jour où j'ai décidé de représenter Tchekhov, et à partir de ce jour-là, impossible de le faire. Ce serait amusant même de retracer les 7 ou 8 projets que j'ai eus à Strasbourg, quand j'étais à Strasbourg. C'était Vania, ici même, à la Comédie-Française. L'année où j'ai quitté la Comédie-Française, j'avais programmé et distribué intégralement la Cerisée, la Mouette, dans la cour d'honneur du Palais des Papes en 1999, mais nous n'avons pas pu trouver l'argent. Enfin bref, à partir du jour où j'ai voulu mettre en scène Tchekhov, par une espèce d'ironie, peut-être celle-là même de Tchekhov lui-même, à partir de ce jour-là, ça m'a été très difficile. J'ai pu le faire à l'étranger deux fois, la Cerisée à Oslo, une sorte d'approche globale, thématique de l'œuvre de Tchekhov avec des étudiants en Italie. Voilà, mais autrement, je n'avais jamais pu m'approcher de lui. Et ici même, c'est tout naturellement avec Marcel Bozonnet que nous avons choisi Platonov, puisqu'après tout, les 5 grandes autres œuvres de Tchekhov, enfin les 5 grandes formes, avait déjà été mise en scène. Donc il restait, et c'est très bien ainsi, Platonov. Mais Platonov, c'est l'œuvre d'un jeune homme, découverte en 1920 par les soins de son frère Michel, qui était son biographe, c'est-à-dire 16 ans après sa mort. C'est une œuvre hirsute, extraordinairement proliférante, enfin. C'est l'œuvre d'un très jeune homme, où tout l'univers, toute la vision, tout le monde de Tchekhov est déjà, mais où l'écrivain n'est pas encore là. Et c'est ça. Alors j'ai fait commande à Serge Rezvani d'une traduction, et si possible d'une traduction, enfin pas si possible, d'une traduction exhaustive, à partir de la totalité des manuscrits retrouvés. J'avais fait la même chose il y a 20 ans déjà, ici même, dans cette maison, en demandant à Vinaver une traduction de Gorky. Un peu, dans les deux cas, pour les mêmes raisons, deux écrivains dont la langue originelle était le russe et qui avaient renoncé au russe.
Pourquoi dites-vous que l'écrivain n'est pas encore là? Alors, qui serait là? Et c'est vrai que Platonov est une pièce à part, n'est-ce pas? Il y a toujours cette obsession de l'éloignement, de la disparition, aux dépens de la famille. C'est quand même le roman familial qui est au cœur. Et dans Platonov, pas du tout. C'est un homme, c'est sans doute l'auteur ou l'écrivain lui-même qui se cherche un peu en aveugle. Il cherche une vérité.
Mais l'œuvre doit quand même beaucoup au biographique. Elle doit d'abord beaucoup à la petite ville où Tchekhov est né. Cette petite ville de Taganrog, enfin ville grise, ville morne, ville industrielle, avec tout d'un coup, au détour, dit-on, je n'ai pas visité Taganrog, au détour d'une avenue, la mer. C'est-à-dire une ville grise avec un horizon magnifique, indéfiniment. Voilà. C'est Taganrog. Taganrog avec sa petite société provinciale, étriquée, terne. Et en ce sens, c'est tout de même très, très biographique. Et puis c'est un jeune homme qui jette sa gourme. C'est probablement sa première tentative, pas seulement pour le théâtre, mais sa première vraie tentative littéraire. Il fera une légère tentative auprès d'une grande actrice de l'époque qui ne sera absolument pas intéressée par le manuscrit, et dépité, il le remet dans le tiroir et n'y touchera plus. C'est donc quand je dis que l'écrivain n'est pas encore là, enfin, bien sûr, la formule est violente, enfin, elle est... mais c'est vrai que tout ce que Tchekhov, dans un temps relativement court, 20 ans, 24 ans, il meurt à 44 ans et on reste... C'est incroyable ce que fait Tchekhov au plan littéraire, mais pas seulement, enfin, de cette courte vie minée par la maladie, hantée par l'échéance de la mort, enfin, dans... Mais l'écrivain n'a pas encore conquis les moyens de son expression. Lui qui préconise si fort le laconique, le suggéré, qui fait tellement confiance au spectateur pour prolonger, pour finir, enfin pour la phrase, là, il est encore terriblement dans Platonov, dans l'espace du commentaire, dans l'espace de la réitération, dans l'emploi multiplié de l'adjectif, cet adjectif qu'il conseillait si fort à Gorky de bannir de ses textes. C'est un jeune écrivain encore très profus, encore très prolixe, et c'est pour ça que c'est très intéressant. La version intégrale occuperait environ 7 à 8 heures de représentation. Et nous allons, nous, et c'est un défi chaque jour renouvelé, nous allons arriver, je pense, j'espère, à une représentation de 3 heures. C'est-à-dire à un texte qui sera extraordinairement, à certains égards, coupé, condensé. Et pourtant, j'ai souhaité que de ne toucher surtout pas à la structure, en 4 actes, mais pratiquement 5, puisque le deuxième acte comporte 2 tableaux, de ne pas toucher au nombre de personnages, ils sont 19, ce qui est beaucoup. Au train où l'on va, il n'y a plus qu'à la Comédie Française, qu'on pourra monter des pièces de cette amplitude. Et puis, à la prolifération des thèmes et des... Voilà, donc si je ne touche ni à la structure, au caractère symphonique des thèmes et au nombre de personnages, et chaque personnage en soi est un monde, et chaque personnage pourrait faire l'occasion d'une nouvelle, enfin, c'est... Si je ne touche pas à tout ça, alors à quoi touche-t-on? Au texte proprement dit, à l'écriture. C'est-à-dire que dans ce Tchekhov d'avant Tchekhov, on introduit peut-être déjà le Tchekhov de la grande maîtrise des dernières pièces et d'ailleurs des dernières nouvelles. Enfin, voilà, c'est une... Et je crois sincèrement qu'il n'y a pas d'éperdition. Je pense que ce Tchekhov préservait dans le foisonnement de cette première pièce et allégé dans l'écriture, guidé par la connaissance que nous avons ça pourrait paraître de loin un petit peu.
Avec Platonov, on joue pas autre chose que Tchekhov, un peu comme pour Tête d'or de Claudel. Claudel est tout entier dans Tête d'or, mais Claudel devient là autre chose. Est-ce que ce n'est pas un peu ce même cas pour Tchekhov ?
Il y a tout à fait ça. D'ailleurs, c'est amusant que vous établissiez ce parallèle avec Tête d'or, puisque je disais que ce Tchekhov d'avant Tchekhov, c'était un peu comme le Tête d'or de Claudel. Enfin, il y a une violence, il y a une... C'est Tchekhov commence probablement au moment où il l'écrit commence ses études de médecine. Donc, il n'est pas encore engagé dans cette relation, dans ce regard de mansuétude, de compréhension et même de compassion. Il est tout entier dans la révolte. Voilà. C'est une œuvre de révolte, hantée par la tentation du suicide. Hanté par la tentation de l'anathème et hanté par une formidable capacité de révulsif vis-à-vis de la petite société où la pièce s'inscrit, et dans une relation très très ambiguë à Platonov, qui dans cette dramaturgie chorale, dans cette dramaturgie, est tout de même le protagoniste, mais le protagoniste non pas... Enfin, celui qui permet de révéler les autres, plus que comme figure constituée.
Est-ce que l'expérience de Platonov et aussi du médecin, de la médecine, ne permet pas à Tchekhov de passer au langage du murmure, de l'étouffement ? Il dit lui-même à Olga, il faut murmurer devant ou contre ce bruit du monde, mais qui est au-delà du bruit.
Et même au-delà du disciple, quelquefois.
Au-delà du lointain.
C'est ça. Il y a l'intuition de ça, déjà, dans certaines relations, dans cette figure, enfin, dans cette multiplication des figures des femmes, il y a l'intuition de ça. Mais ça n'est pas encore atteint. Il y a une volonté de dire, de tout dire, de trop dire. Et donc cet arrière-pays, dont les mots ne seraient que des... Comment dirais-je ? Je pense à cette belle expression d'Eliot dans son grand poème...
Le Tervaine.
Oui, il faut bien trouver des mots quand je te parle. Tchekhov n'en est pas encore à ce soupçon radical du langage. Les références sont là, insistantes, polémiques souvent avec la littérature russe de son temps. Shakespeare, et très particulièrement Hamlet, est là comme une espèce de fil conducteur de la pièce et de la figure même de Platonov. Il est dans la volonté du dire et dans la confiance du dire. Il n'est pas du tout encore dans le soupçon radical du langage. Voilà, je crois que c'est ça qui est très curieux.
Platonov est un personnage entier. On peut penser qu'il est vraiment le portrait du Tchekhov très jeune, de 20 ans. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine relation entre Platonov et le Tchekhov amoureux d'Olga, mais qui est lui aussi reste entier, c'est-à-dire il voyage, il va à Yalta, il reste à Yalta, dans son jardin, il écrit à Olga qu'il l'aime, qu'il pense à elle, qu'il s'ennuie sans elle, mais il reste entier en restant là où il est. Est-ce qu'il y a, vous ne voyez mais pas une image en miroir ?
Il est mieux loin d'elle que près d'elle. Enfin, si, il y a ça. Il y a... Je crois qu'on considère souvent que Tchekhov n'a découvert et n'a consenti à l'amour que très très tard. Et probablement, en effet, avec la comédienne Olga Knipper. Là, ce qui frappe dans Platonov, c'est un donjuanisme à l'envers, enfin. C'est-à-dire que Don Juan est traqué par les femmes et essaie de les éviter. Ou en tout cas, se sauve de l'une par l'autre.
Enfin, il ne peut pas éviter les lettres anonymes qu'il reçoit.
Il ne peut pas éviter ni les lettres anonymes, ni d'ailleurs la mort que lui donnera une des cinq femmes qui le hantent dans la pièce. Mais je crois que là, on est en présence d'une espèce... Platonov, quand commence la pièce, il n'a que... C'est aussi une des vraies questions. Il a 27 ans. Et c'est un homme usé, un homme en fin de partie, un homme au bout de course, à 27 ans. Je crois que ça tient aussi probablement au fait que, comme le disait justement Tchekhov dans sa correspondance à Olga Knipper, comment envisager un enfant dans « Je suis déjà édenté, je perds mes cheveux, j'ai déjà l'air d'un vieillard et dans un an, si je ne suis pas mort, je serai... » Cette accélération du temps est une chose déjà très, très troublante. Et en plus, je pense que Tchekhov considère que l'homme a une vague chance, que l'homme étudiant, que l'homme aux prises avec la conquête du savoir est un homme virtuellement positif. Et puis que tout s'abîme très vite. Et qu'à 20 ans, à 30 en tout cas, les virtualités d'un homme sont épuisées. Et que il n'est plus qu'un vieillard inutile. C'est très curieux. Et ce Platonov de 27 ans, ce Platonov qui a une conscience très aiguë de son échec, ce Platonov ne trouve comme dérivatif à son ennui et à sa désespérance que ce jeu avec les femmes, mais qui est un jeu fatigant, un jeu sans perspective, un jeu sans illusion d'aucune sorte. Mais je reviens à cette idée de l'usure. Il y a toujours ce thème, mais dont il ne faut pas abuser, parce que c'est pas Tchekhov qui parle. Quand les personnages parlent d'un avenir meilleur, quand les personnages parlent d'une virtualité d'accomplissement pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, c'est les personnages qui rêvent et qui se projettent. Ça n'est pas Tchekhov. Tchekhov ne prend jamais la parole. C'est pour ça qu'il est si sceptique vis-à-vis de Dostoïevski ou de Tolstoï, enfin, de tout ce qui ressemblerait déjà à une thèse, à un point de vue. Il n'a pas de point de vue. Il donne la parole aux autres, sans aucune espèce de... comment dirais-je, de préalable idéologique ou moral ou religieux, d'aucune sorte.
C'est vrai qu'il est en retrait, mais néanmoins il est vigilant et lucide de la qualité de son théâtre. Il sait qui il est. Qu'est-ce que vous faites, Jacques Lassalle ?
Il le saura, mais il ne le sait pas encore.
Il se le dit peut-être, non ?
Peut-être. Encore que il y a dans les correspondances un certain nombre d'écrivains qui disent à Tchekhov: vous savez, il faut prendre conscience en vous. Vous êtes beaucoup plus que le novelliste qui écrit, comme vous le dites vous-même, en quelques heures, entre deux consultations. Enfin, vous êtes un vrai écrivain. Prenez-en conscience. Acceptez. Et Tchekhov est à la fois touché par... Je ne sais plus quel est l'auteur qui lui écrit ça. C'est peut-être son éditeur, Souvorine. Non, c'est un autre. Enfin, peu importe. Mais Tchekhov met très longtemps à le croire. Je ne crois pas qu'il y ait d'ostentation ou de pose dans l'humanité tchekhovienne.
Il l'a entendu.
Et je pense que, vous avez raison, les dernières années, Tchekhov a pris tout à fait conscience.
Et de sa
formidable novation. De ce qu'il représente. Mais il met très longtemps à le faire. Il inscrit son travail d'écriture comme un gagne-pain supplémentaire qui vient s'ajouter. Je crois que c'est une dimension importante. Cette humilité vraie.
C'était À voix nue, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale. Réalisation, Clotilde Pivin.